Donc effectivement, en fait, on a tout ce qui relève de l'affectation des espaces. Donc l'affectation des espaces, donc ça peut être tout ce qui concerne la réduction du nombre de voies motorisées, l'élargissement aussi des aménagements cyclables existants, et enfin aussi toutes les actions qui pourraient finalement venir prendre de l'espace sur d'autres espaces, comme par exemple sur le stationnement motorisé. On a aussi tout ce qui concerne le plan de circulation. Donc plan de circulation, ça veut dire la gestion des priorités, la gestion des carrefours, les sens de circulation, les mesures de restriction de circulation, la limitation des vitesses, etc. Tout ce qui relève aussi de la signalisation, c'est-à-dire avec finalement comment on fait pour identifier sur place ces aménagements, donc comment on utilise du matériel de signalisation, comment parfois dans certains cas on peut s'en passer. Et enfin, alors là, on rejoint pleinement finalement la position donc d'Élodie Trochet-Sec. On va vraiment mettre en avant aussi l'importance de traiter en parallèle les cheminements piétons et surtout de ne pas dégrader les conditions de déplacement des piétons. Voilà, donc Thomas, je te redonne la main pour commencer.
Ok, donc on vous propose de regarder quelques profils en travers sur lesquels on a travaillé, qu'on soumet bien sûr à vos remarques, hein, sachant que bien évidemment c'est pas du tout complet, hein, que c'est quelque chose qui est en construction. L'objectif étant de construire avec vous un référentiel technique qui soit publié avant la fin du confinement. Donc c'est vrai que le premier outil de base, et d'ailleurs ça a été très clairement expliqué par Agnès Sassic à travers les exemples qu'elle a proposé dans le Val-de-Marne, hein, c'est réduire le nombre de voies aux véhicules motorisés. Et s'il y a bien une situation où il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser sur la visibilité technique, si on évacue la question du trafic motorisé, et c'est bien le cas en ce moment avec l'effondrement du trafic motorisé lié aux mesures de confinement, c'est bien les artères, donc les voies urbaines bidirectionnelles à deux fois deux voies, où eh bien, très facilement on peut mettre en place une piste cyclable unidirectionnelle, une bande cyclable pardon, unidirectionnelle équipée donc de balises d'alignement. Donc j'ai fait simplement en termes de prix, hein, l'ordre de grandeur. Hein, alors après, on est allé regarder les prix catalogues, ça demandera à être affiné. Mais avec le type de matériel là que je décris ici, on peut construire assez facilement, hein, 1 km d'aménagement avec moins de 50 000 euros. Donc un autre exemple, hein, on voit aussi en ville, dans les grands centres urbains, il y a quand même un certain nombre d'axes directionnel avec terre-plein central, eh bien, c'est tout aussi facile, hein, de mettre, alors là, on est bien dans des profils en travers, hein, on n'est pas dans les intersections, de mettre en place ce type d'aménagement qui pose pas de problème particulier. Alors, le deuxième axe, qui est d'ailleurs, a été mis en œuvre à Berlin, hein, sur plusieurs tronçons, hein, photo qu'a montré Élodie Barbier Trochet-Sec dans sa présentation Le Monde Bien, c'est la question de l'élargissement des aménagements cyclables existants. Hein, vous voyez ici donc un profil en travers type avant qui existe encore, hein, avec une deux fois deux voies qui est munie de bandes cyclables standards d'1,50 m qui peuvent quand même générer un certain inconfort. Et a fortiori, quand on a des mesures de distanciation physique, eh bien, on peut très facilement élargir ces bandes cyclables pour leur donner une largeur donc de 2,50 m et éventuellement réduire la largeur de chaque voie motorisée. On est bien là dans des exemples, hein, ce sont pas on n'est pas là pour dire la norme, mais on montre simplement ce qui est possible en termes de mise en œuvre. On a parlé beaucoup du stationnement motorisé. C'est vrai que le stationnement motorisé, il questionne parce que il y a deux hypothèses sur l'évolution du stationnement motorisé sur voirie lié au confinement qui, je dirais, qui s'opposent un petit peu. La première, c'est de dire, bah oui, il y a moins de voitures en circulation liées aux mesures de confinement, beaucoup moins. Donc, il y a plus de voitures sur l'espace public et donc agir sur le stationnement, c'est plus compliqué. Mais il y en a une autre qui va à l'inverse, qui est de dire, eh bien, vu que les usagers, dans l'immense majorité des cas, ne laissent plus leur voiture, eh bien, ils ont tendance plutôt à la stocker chez eux et du coup libèrent de l'espace public. Je pense que ces deux hypothèses, elles existent, elles coexistent, elles sont, c'est l'une qui est plus forte que l'autre suivant les territoires considérés. Mais voilà, donc on est bien dans des questions d'opportunités à saisir. Donc, la question d'agir sur les emplacements de stationnement motorisé, il y a une façon assez simple, c'est celle que vous voyez à votre écran, c'est tout simplement de remplacer la voie de stationnement existante par une bande cyclable, qui pour le coup, alors après ça dépend du profil en travers que vous avez, de l'espace que vous avez pour les usagers motorisés, mais sera un petit peu plus large que si un peu plus étroite pardon que si vous la prenez aux voies de circulation motorisée. Une autre façon d'envisager la seule chose, et je crois que j'ai cru comprendre que c'était dans certaines métropoles françaises ce qui était envisagé, c'est carrément donc de déplacer le stationnement motorisé pour réaliser une piste cyclable. Donc elle est intercalée entre le trottoir et stationnement, qui pour le coup aura une largeur encore plus confortable et puis qui peut être génératrice d'un sentiment de confort et de sécurité supérieur pour les cyclistes, sachant que dans ce cas-là, mais dans le cas aussi avant, il y aura une gestion des intersections à regarder pour éviter les masques à la visibilité. Donc réduire le nombre de voies affectées à la circulation motorisée, agir sur les places de stationnement motorisé pour l'utiliser, pour libérer de l'espace pour les cyclistes. Et puisqu'on parle de stationnement, et ça a été évoqué tout à l'heure, évidemment, il faut en profiter, évidemment, pour mettre du stationnement vélo. Et il existe beaucoup de solutions de stationnement amovible. Vous en avez deux exemples ici à l'écran, donc qui sont peut-être qui ont été d'abord conçus pour être utilisés lors d'événements, mais que un certain nombre de collectivités commencent à s'approprier pour faire des tests justement, et ce qui permet d'avoir une agilité très grande et de pouvoir répondre à une demande qui n'est pas forcément exprimée. La question des arrêts de bus a été aussi évoquée. C'est vrai que dans les freins qui sont exprimés par les collectivités, il y a cette question des arrêts de bus avec la question de maintenir l'accessibilité des quais bus. Et effectivement, les quais amovibles sont une solution, alors qui n'est pas parfaite, qui est temporaire, qui ne remplace pas un aménagement en dur qualitatif, mais qui peut permettre de maintenir une continuité des aménagements cyclables, tout en gardant un niveau de service de l'accessibilité au quai bus. Et là, j'ai mis en petite vignette une évaluation de quai modulaire qui avait été faite par le CEREMA et que je vous engage à consulter. Un autre axe fondamental pour développer l'usage du vélo, c'est évidemment la modification du plan de circulation. Encore une fois, c'est un outil qui existe, qui est classique, qui fait partie des outils pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes. Mais je dirais qu'en cette période de confinement où la pression motorisée est particulièrement faible, eh bien c'est l'occasion vraiment de mettre l'accent sur soit des nouveaux plans de circulation, soit des plans de circulation qui ont du mal à démarrer pour des questions politiques, parce qu'il y a cette pression motorisée qui à chaque fois retarde la mise en œuvre des projets. Donc il faut vraiment profiter de cette opportunité. Alors le plan de circulation, la manière d'agir sur le plan de circulation, là j'ai une petite animation qui nous vient de Gand, qui a donc Gand a segmenté son espace urbain en un certain nombre de secteurs pour justement agir sur le plan de circulation et rendre les trajets en voiture très compliqués. On voit la petite voiture qui veut passer du secteur 2 au secteur 3, eh bien, elle est dans l'incapacité totale d'y passer, de passer de 2 à 3 sans passer par le boulevard périphérique. Donc, modifier le plan de circulation, c'est aussi, bien sûr, un des outils qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant. Alors, la modification du plan de circulation, ça veut dire qu'on peut donc carrément interdire la circulation motorisée sur certaines artères. On peut aussi la permettre, mais dans un seul sens. Et là, il y a cette possibilité, mais qui n'est qu'une possibilité parmi d'autres. C'est pas non plus une norme, mais on peut tout à fait envisager sur une voie urbaine bidirectionnelle, d'en profiter pour tester ce profil-là en mettant la voie à sens unique et en créant une piste cyclable bidirectionnelle. Alors, effectivement, quand on aborde un carrefour à feu, eh bien, il y a la question de la gestion des mouvements par des feux de chantier. C'est possible, C'est vrai que là, pour le coup, ça peut augmenter éventuellement le coût des projets. Peut-être aussi, ça peut être l'occasion aussi de s'interroger sur la pertinence du feu, hein, et ça peut aussi simplifier un certain nombre de choses. En tous les cas, ça reste, encore une fois, je répète, c'est des choses qui sont possibles. La boîte à outils techniques et réglementaires, elle le rend possible maintenant. Alors, on a aussi une boîte à outils donc de signalisation temporaire qui existe depuis des années, qui est utilisée pour créer des aménagements cyclables temporaires que vous pouvez utiliser. Encore une fois, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Et ce que je vous propose, c'est de les regarder un petit peu ensemble, hein, en commençant par cette balise d'alignement. Je la mets en premier parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a vu, hein, très clairement, c'est ce qu'on a vu en Europe, à Berlin. C'est l'outil qui est majoritairement utilisé par Berlin. Alors, les avantages de ce dispositif, c'est qu'il est effectivement amovible, hein, il peut être manutentionné très facilement. Et puis, il a un coût de entre 50 et 100 euros. Donc, j'ai tout compris, hein, l'équipement. Donc, c'est quand même un matériel qui est intéressant. Mais ce n'est pas le seul outil, hein. Vous pouvez aussi avoir recours aux séparateurs modulaires de voix, hein, qui sont des blocs de plastique de différentes tailles, hein. Peut-être celui ici en bas à droite est un peu plus... de taille un peu plus modeste, et donc il peut permettre, quand vous avez quand vous voulez conserver une largeur roulable confortable pour les cyclistes, et bien il peut permettre de réaliser cet objectif. Voilà, donc c'est l'avantage. Si vous réalisez cet aménagement en continu, ben ça sera quand même un petit peu plus cher, mais ça peut tout à fait être envisagé. Et puis on a enfin la balise de guidage, où là on est donc dans quelque chose qui est un peu moins déplaçable, hein, parce que ça nécessite souvent de le spitter, hein, dans le béton. Donc j'aurais tendance à dire que pour des aménagements pareils qui étaient dans les cartons, où on sent vraiment qu'on n'était pas loin de la mettre en œuvre et que juste l'occasion du confinement est de le faire, et ben on peut éventuellement envisager ces solutions-là, sachant qu'on peut quand même les retirer, hein, de manière pas trop compliquée. Et puis je voulais dire, voilà, la signalisation temporaire, le matériel de signalisation temporaire, c'est une possibilité qui est offerte aux aménageurs. Ça n'est pas du tout une obligation. Il y a d'autres façons de faire des aménagements cyclables temporaires, et on le verra d'ailleurs cet après-midi avec Montreuil, qui a une grande expérience en matière d'urbanisme tactique. Et dans les cas où il est important de peut-être mettre autre chose que les dispositifs que je viens d'évoquer, c'est des cas où vous êtes en cohabitation avec du trafic lourd, rapide, très dense, et où les aménagements que je viens d'évoquer vont pas forcément être adaptés. Il peut être pertinent de faire appel donc à des blocs béton, hein. Donc là, je vous en ai mis un petit florilège, hein, avec encore une fois des possibilités d'emprise au sol qui sont, c'est du matériel qui est normé, hein, des possibilités d'emprise au sol qui sont différentes en fonction de la force du trafic, de la rapidité, en fonction aussi de l'emprise au sol que vous avez, c'est-à-dire que 60 cm, eh ben, c'est pas rien, hein, c'est ça de moins pour les cyclistes. Donc peut-être qu'il y a des cas où l'emprise, on peut faire appel à ce type d'éléments modulaires. Et puis si vous avez un exemple, hein, on peut évidemment sans juger la qualité esthétique de l'aménagement, mais au moins ça permet de mettre le cycliste dans quelque chose qui va lui permettre de circuler en sécurité. Un autre exemple, hein, d'un pont que certains peut-être d'entre vous connaissent, hein, où il y a aussi du temporaire qui dure, qui a été mis en place et qui permet aussi d'améliorer les conditions de circulation des cyclistes. Le pont Mandela en Île-de-France, qui d'ailleurs fait l'objet d'un projet qui a été retenu par le Fonds Mobilité Active et qui sera bientôt réaménagé. Et puis il y a aussi donc tout ce qui n'est pas forcément dans la signalisation réglementaire, mais qu'il est possible de mettre en œuvre, hein, avec notamment des éléments de mobilier urbain qui peuvent aussi séparer un aménagement cyclable du reste de la voirie, qui peuvent être aussi déplaçables. Hein. Alors évidemment, il faut faire attention à ce que ça soit bien visible, à ce que ça soit détectable, à ce que ça soit repérable, mais on a aussi grande marge de manœuvre à ce niveau-là. Donc, il y a donc la réduction du nombre de voies motorisées, agir sur le stationnement, utiliser la signalisation temporaire ou d'autres éléments de séparation. Mais il y a aussi, évidemment, et ça a été évoqué par Élodie Trochet-Sec tout à l'heure, la question de la modération de la vitesse. Là aussi, j'ai quand même envie de dire que l'arsenal, il existe, il est déjà déployé par un certain nombre de collectivités, il peut être déployé de manière aussi temporaire, et donc les collectivités ont toute latitude pour s'en saisir. Là, j'ai mis les trois panneaux qui correspondent aux zones de circulation apaisées, qui sont les outils de base pour modérer la vitesse, que sont l'aire piétonne, la zone de rencontre et la zone 30. Voilà. Je redonne la parole à Marion pour la question des espaces piétons.
Oui, tout à fait. Donc, pour enchaîner, donc là, l'idée, c'est pas de lancer un séminaire sur vraiment la question des aménagements piétons temporaires, ou la manière, en tout cas, d'adapter les aménagements piétons pour qu'ils tiennent compte des objectifs de distanciation physique, mais c'est de voir un petit peu quand même, de voir avec vous comment finalement ces aménagements cyclables, déjà, un, l'enjeu, c'est qu'ils ne prennent quand même pas de place sur les espaces piétons et qu'on ne dégrade pas le niveau, justement, de déplacement des piétons, le niveau d'accessibilité, et puis qu'on dresse déjà comme ça quelques pistes, sachant que je vais rappeler quand même au préalable, parce que Élodie Trochet-Sec m'a parlé tout à l'heure, effectivement, elle parlait d'1m40, donc 1m40, c'est c'est la réglementation accessibilité qui finalement impose qu'il y ait un cheminement piéton d'au moins 1m40 entre deux obstacles. Donc, ce qui fait que sur un trottoir, si on fait pas un trottoir d'1m50 ou d'1m80, en fait, on peut pas concrètement respecter sur 1m40, puisqu'on va forcément avoir à un moment donné un équipement de mobilier urbain. Donc, nous, au niveau du CRMA, ça fait longtemps qu'on recommande plutôt une largeur de trottoir minimale pour que ce soit confortable de 2m50. Mais bien évidemment, c'est à adapter. On a bien vu pendant toute la phase de confinement que autour des pôles générateurs de déplacement, donc qu'il s'agisse des commerces, qu'il s'agisse des arrêts de transport, etc. Ce sont des lieux en fait qui sont quand même propices aux attroupements et donc où cette largeur en fait elle ne sera pas suffisante. Donc finalement quels vont être les moyens d'action pour élargir en fait ces cheminements piétons, pour en tout cas faire adapter les usages dans ce contexte. On va avoir finalement des réponses qui vont être un petit peu les mêmes que celles pour les aménagements cyclables. Donc Thomas, je pense qu'on est... Moi, je suis bloquée sur mon écran sur modérer la vitesse et je voulais passer le schéma justement de... Alors après, voilà, celui qui est après, voilà. Donc on va avoir un premier outil qui va être comme pour les aménagements cyclables, non, celui après, qui va être en fait de la possibilité de réserver en fait certains espaces à finalement d'élargir le trottoir sur des espaces qui finalement avant étaient occupés par d'autres usages. Donc là vous avez un exemple de schéma où finalement on a des trottoirs qui sont élargis avec aussi toute une succession de balises d'alignement. Un deuxième exemple qui va être plutôt, lui, un espace mixte piéton. Donc, c'est la diapo suivante, Thomas. Un espace mixte piéton cycle. Voilà. Donc, là où on utilise, en fait, 5 mètres pour, finalement, à la fois faire une bande cyclable de part et d'autre et puis un trottoir élargi. Avec quand même des questions un petit peu sur la repérabilité, enfin la cohabitation des différents usagers, la piéton cycle et son acceptabilité pour les usagers vulnérables, notamment les personnes déficientes visuelles. Donc il y a quand même ce sujet qu'il faudrait traiter dans ce type d'aménagement. Et enfin, on pourrait aussi tout à fait s'inspirer en fait des pratiques en matière de chantiers urbains, notamment au niveau des chantiers urbains, on a beaucoup de bonnes pratiques qui se développent. Donc c'est la diapo suivante, et notamment des créations en fait de couloirs piétons temporaires, alors plus ou moins matérialisés, avec soit des balises, soit des barrières, etc., soit des quais d'utilisation trottoir temporaire en PVC recyclé, comme c'était le cas de l'arrêt de bus de tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces idées, en tout cas, sont qui pour l'instant étaient réservées surtout aux chantiers, à la gestion des chantiers urbains, pourraient aussi être réutilisées pour des aménagements piétons temporaires. Voilà, bien sûr, toutes les mêmes mesures aussi de plan de circulation. Donc, comment est-ce qu'on peut étendre, faire évoluer la circulation dans certaines zones, des pistes existent déjà dans les écoles, par exemple. Comment aussi on gère la question du mobilier urbain minimal dans toute cette, dans tous ces aménagements, c'est une autre question. Et enfin, pour conclure, je dirais aussi que par rapport à la problématique de l'accessibilité, on doit vraiment avoir en tête que pour que ces aménagements temporaires soient efficaces, soient acceptables, pour que cet urbanisme évolutif finalement fonctionne, il faut qu'il y ait une bonne information. Il faut que des données qui soient mises à la disposition de l'usager, elles soient finalement données en direct avec des données qui soient fiables et actualisées. Et donc, on a aussi un gros enjeu, au-delà de l'aménagement, de bien informer sur ces ces nouvelles permissions ou pas, sur ces nouveaux aménagements. Voilà, je ne sais pas si Thomas, tu veux compléter.
Merci beaucoup, Marion. Non, simplement dire en conclusion, répéter que voilà, des choses... Une grande partie des choses sont possibles à faire maintenant, qu'il y a des points à approfondir et qu'on va les approfondir avec vous. Vous dire aussi que l'équipe du CEREMA, eh bien, elle se tient à votre disposition. Hein. On a des correspondants vélos, des correspondants piétons dans tous les territoires pour répondre à vos questions et pour vous accompagner sur ces mises en place d'aménagements cyclables et piétons temporaires. Voilà, je vais passer la main à Flavien qui a peut-être des questions qui viennent sur le fil de discussion.